L'Université de Rennes 1 vous invite à découvrir la semaine Profil consacrée à l'insertion professionnelle. Au programme, 42 thèmes, 19 conférences, 2 forums et un speed meeting. Avec nous pour en parler, Sandrine Vialon. Bonjour.
Bonjour.
Alors ma première question est, pouvez-vous nous dire quels seront les temps forts de cette semaine ?
Alors j'ai envie de dire, il n'y aura pas de temps fort dans cette semaine parce que toute la semaine est un temps fort. En fait, on a plus de 200 professionnels qui sont mobilisés sur toute la semaine. Et si j'essaie quand même de vous en donner quelques-uns, on a un forum jeudi, le jeudi 25 octobre, donc là c'est en matinée, et on a aussi un speed meeting le jeudi au soir, donc là avec une rencontre aussi sur les entreprises. Donc une grosse journée entreprise le jeudi et des ateliers, 200 créneaux d'ateliers répartis sur toute la semaine et des conférences sur toute la semaine aussi.
J'ai regardé sur votre site de Rennes 1, vous dites que les participants peuvent se composer un parcours profil personnalisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ?
Oui, bien sûr. Le principe de profil, en fait, c'est d'aller chercher les endroits où il peut nous manquer des choses pour faciliter son insertion professionnelle. Donc, c'est par exemple choisir un thème qui sera plus sur l'entretien de recrutement, ou ça peut être plus un thème sur la confiance en soi, en fonction de là où on est dans son parcours professionnel, mais aussi personnel, parce que pour nous, les deux sont totalement liés. Donc, vous pouvez vous créer une semaine uniquement sur de la sophrologie, des soft skills, ou vous pouvez vous créer une semaine où on vous prépare sur le CV, la lettre de motivation, où on fait des simulations d'entretien de recrutement. Et ça, en fait, c'est des créneaux qui sont ouverts, donc l'inscription se fait en ligne. Et en fonction exactement de là où vous en êtes dans votre parcours, vous choisissez ce qui vous intéresse.
D'accord. Qui seront les professionnels qui vont participer justement à cette semaine ?
Alors, c'est des profils qui sont extrêmement variés. Il y a d'abord une base que sont les conseillers en orientation insertion professionnelle du SOI, le service orientation insertion entrepreneuriat, puisque c'est le service organisateur. Donc là, on a une grosse base d'une douzaine de professionnels qui interviennent toute l'année au sein de l'université. Et ensuite, on a fait des recrutements, véritablement, en fonction des spécialités, des conférences et des ateliers. Donc, on peut avoir des cabinets de recrutement qui viennent expliquer le recrutement en cabinet. On va aussi avoir une sophrologue qui vient vraiment expliquer sa pratique et la mettre au service de l'insertion professionnelle. Il y a quand même toujours un but qui est en lien avec l'entretien, le CV, la lettre de motivation. Donc, ce sont véritablement des pré-recrutements que nous avons faits au SOI pour essayer d'être au maximum en lien avec les thèmes que nous proposons. Et puis, ce sont évidemment les professionnels qui viennent là directement du monde de l'entreprise, qui sont présents sur les stands ou sur les speed meetings.
Quels sont, selon vous, les enjeux qui attendent les étudiants, justement, qui se préparent à rentrer dans le marché du travail ? Et comment est-ce que, justement, la semaine profil peut y répondre ?
Alors, d'abord, oui, c'est une belle question.
Vaste question.
Le but, je dirais, premier de la semaine profil, c'est de montrer que l'insertion professionnelle, elle ne se fait pas à la fin du cursus, elle se fait tout au long du cursus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la place aussi assez tôt dans l'année. Donc, elle est ouverte, on ne l'a pas précisé, mais au M1 et au M2. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger avec les étudiants sur le fait que le parcours, il se construit vraiment au fur et à mesure. Il se détermine pas, le diplôme, c'est pas un coup près et ça y est, je cherche du travail. Ou alors, je viens de terminer mes partiels et ça y est, je cherche un stage. Vraiment, le but de la semaine profil, c'est de l'insérer tout au long du parcours et de faire évoluer le projet. Parce que quand on arrive en M1 et quand on sort de M2, ben, notre projet, c'est pas forcément le même. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce cheminement et de donner tous les outils, en tout cas au maximum les outils, qui vont permettre de faciliter cette insertion professionnelle.
Quel conseil vous donneriez aux participants de cette semaine profil, ceux qui vont arriver ? Comment bien réussir cette semaine ?
Ben moi, j'ai envie de dire qu'il faut la prendre à bras-le-corps, au sens où il y a quand même des thèmes qui sont extrêmement variés et de pouvoir se tester au maximum. C'est-à-dire que si on hésite à présenter son parcours de manière formelle ou alors on a toujours une idée d'un fil rouge un peu particulier pour présenter son parcours, testez-le, utilisez la semaine profil de cette manière pour avoir des profils de vous-même qui soient différents et essayer de comprendre celui qui vous correspond le plus. Et voilà, je dirais que c'est un très beau brouillon avant de se lancer véritablement sur le recrutement.
Est-ce que ça peut être utile aussi, donc, par exemple en M1, j'en connais personnellement beaucoup, des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire en fait, après leur master, ou qui sont encore très perdus dans tout ce choix. Est-ce que ça peut permettre d'avoir une forme d'orientation déjà, de tester un peu qu'est-ce qui nous plaît ?
Alors, c'est en fait, si ça n'est pas un projet abouti en termes de choix de M2 déjà, ça peut être le cas pour essayer de mieux comprendre ses attentes et donc choisir le M2. Ça peut aussi être une découverte, parce qu'on fait aussi des ateliers sur ce thème, sur une découverte d'un secteur d'activité. Okay. Et aller à la rencontre de professionnels, c'est ce qu'on dit aux étudiants. Parfois, on ne sait même pas le métier qu'on veut faire. Mmh. On sait les compétences qu'on veut mettre en œuvre. Mais dans une entreprise, ce métier, il va avoir un nom. Dans une autre, il va avoir un autre nom. Et le fait de rencontrer des entreprises différentes, ça va permettre d'affirmer et d'affiner le projet. Et ça va permettre surtout de dire, moi, je veux faire tel métier, tel métier, tel métier. C'est le même, mais moi, je connais votre secteur d'activité. Je sais que chez vous, il s'appelle comme ça. Et que chez vous, il s'appelle plutôt comme ça. Et ça montre aussi aux professionnels que l'étudiant s'est intéressé véritablement à son secteur d'activité. Et souvent, c'est ce qui fait la différence. Ça se sent. Le recruteur, le professionnel qui est en face, il voit, il sent l'étudiant qui est allé chercher, qui est allé un peu fouiner dans le secteur d'activité. Bon, ce qu'on donne comme conseil de base aussi, évidemment, à chaque fois, allez voir le site internet, repérez l'entreprise à laquelle vous voulez parler.
Vous avez d'autres outils numériques comme ça qui pourraient aider les étudiants à faire leur choix ? Est-ce qu'il faut aller sur Facebook pour se renseigner sur l'événement ?
Alors, effectivement, de toute façon, allez partout. C'est-à-dire que si vous ciblez une entreprise, allez sur Facebook, oui, évidemment. Allez sur Google, oui, évidemment, mais pas que. Allez à la sortie de l'entreprise que vous visez. Vous pouvez discuter. On est souvent surpris, hein, mais en fait, la plupart des personnes en emploi aiment parler de leur travail. C'est quelque chose qui peut être tout à fait bien pris et puis ça permet de le replacer aussi au moment de l'entretien. Ça permet de se rassurer parce qu'on sait que c'est des vraies personnes humaines comme nous qui sont en face. Donc c'est incarner en fait le métier vers lequel on veut aller et en même temps c'est faire en sorte que ce moment soit moins déstabilisant quand on y arrive sur l'insertion professionnelle, sur l'entretien. Donc oui, alors après, je vais aussi prêcher pour ma paroisse un petit peu, mais nous, on a mis sur le site du SOI, on a fait un recensement en fait, des annuaires d'entreprises qui peuvent être intéressants pour trouver un maximum d'informations. Et on a mis un petit commentaire sur chacune pour dire pourquoi on trouve que c'est intéressant. Donc ça, c'est sur le site du SOI, par exemple. Et surtout, en fait, quand vous dites Facebook et autres, bah, c'est le « et autres » qui est important. C'est juste ne pas avoir une seule source. Multiplier les sources. Et ça, je pense que ça vaut dans toutes les études et ça vaut aussi pour l'insertion professionnelle.
Merci. J'espère que tous les étudiants de master ont bien entendu. Donc, je le rappelle, la semaine profil a lieu du 22 au 26 octobre. Et pour plus d'informations, du coup, rendez-vous sur le site de Rennes 1, service orientation insertion entrepreneuriat. Voilà. Merci, Sylvain Sandrine.
Merci.
Fait une petite pause musicale avec le titre « Balance ton quoi » d'Angèle.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Fallait te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter, allez te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, allez te faire en moi je serai poli pour
Le 8 novembre prochain, l'association À vos défis lancera pour la deuxième fois son challenge où des partenaires proposeront des défis à des groupes d'étudiants autour de la question du développement durable. Pour en parler avec nous, Julie et Laura, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, ma première question est, comment est né en fait le challenge À vos défis?
Il est né, c'était des étudiants qui se posaient les questions, des questions sur l'environnement, et du coup, ils se sont dit, pourquoi pas faire des challenges pour rendre ça plus
ludique.
Oui, voilà, ludique.
Et en fait, c'est à la base, c'est le CRIDD et l'Université de Rennes qui ont organisé ça à la suite. Et ça fait à peu près 2 ans que c'est en place.
Ouais.
D'accord, ok. Ans. Donc, alors, À vos défis va débuter du coup le 8 novembre. Ça se terminera en avril 2019, si je ne me trompe pas. Comment ça va se passer du coup ces 6 mois? Ça va être quoi les temps forts?
Alors, en fait, on a une soirée de lancement le 8 novembre. Et c'est là que les étudiants qui sont intéressés vont venir pour en apprendre plus sur les défis et constituer leur groupe. Pour ensuite proposer des solutions à des défis proposés par des entreprises. Et c'est en avril, donc c'est le 10. La soirée de clôture où ils vont présenter leurs solutions et on va les récompenser les meilleures propositions, etc.
Ça va être quoi les thématiques abordées? Vous pouvez nous le dire déjà?
Il y en a plein, il y a le recyclage.
Orange, ouais, par exemple, en gros, ils vont...
Recycler les anciens téléphones portables, il y a la SNCF, il y a plein de grandes entreprises comme ça qui demandent de l'aide, en fait. Pour trouver des solutions qui sont peut-être possibles, réalisables.
Donc, comme partenaire, vous avez dit qu'il y avait la SNCF. Vous pouvez nous en citer d'autres aussi?
Alors, il y a SNCF, Orange,
Canon.
Canon, ouais. Après, on ne se rappelle plus trop des grandes.
Il y a pas mal de défis.
Mais ouais, il y en a beaucoup. Il y en a 12 à peu près, 12-13.
Ouais.
Vous avez déjà beaucoup d'étudiants qui sont inscrits, du coup?
Bah, en fait, pour l'instant, on s'occupe plutôt de la communication en ce moment.
Pour
les motiver à venir. Donc, c'est tout Rennes. C'est Rennes 1, Rennes 2, l'école de commerce de Rennes, etc. Et donc, on fait des interventions en amphi. On va faire... on fait des affiches, des affiches.
On alimente
les réseaux sociaux aussi.
Instagram, beaucoup, Facebook.
Ouais. Voilà, on a fait des vidéos. Du coup, on va aller dans les amphis demain, mercredi et à la rentrée.
Ça va être des groupes de combien d'étudiants à peu près qui vont se mettre en place?
C'est 8.
8 à 12, je crois.
8 à 12, oui.
Ouais. Et du coup, il y aura aussi les responsables de certaines entreprises qui vont venir, plus des porteurs de chaque défi. Donc ça va leur permettre d'être aussi accompagnés, de ne pas être tout seul à essayer de trouver des solutions. Donc voilà.
Vous participerez, vous aussi? Ou non?
On fait la...
Nous, on organise
l'événementiel. Quoi.
La voilà, communication.
C'est ça.
Et puis...
oui, c'est ça.
D'accord,
ouais,
ok.
C'est ça.
Vous savez ce qui avait été fait, du coup, la dernière fois? Ou vite fait?
C'était la même chose. En fait, c'est pas des défis qui ont été forcément réalisables parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Mais après, il y a eu des très bonnes propositions l'année dernière. Du coup, on espère que les étudiants cette année pourront proposer des choses aussi intéressantes.
Bien sûr, le développement durable, c'est encore une notion un peu floue aujourd'hui, mais justement, c'est bien que ça se concrétise avec des actions concrètes.
Ouais.
Du coup, dernière question, comment est-ce qu'on fait si on veut participer ? Donc, comment s'inscrire ?
Il faut se rendre le 8 novembre donc,
à la salle EHSCP.
Oui.
Et avant et au préalable, il faut s'inscrire sur un formulaire qu'on propose. Donc, sur nos affiches, il est noté où il y a un QR code aussi. Et on peut aller sur le site d'Avo Défi et s'inscrire directement là-dessus.
D'accord, ok, voilà. C'est bien noté. Alors, je le rappelle, du coup, vous l'aurez compris, Avo Défi commence à partir du 8 novembre.
Ouais, voilà. C'est ça.
Merci beaucoup. continue à parler de développement durable dans SILAB. Les champs libres se sont penchés sur le sujet et proposent un fil rouge tout le long de l'année sur les questions d'urbanisation et de développement durable. Nicolas Gilsoul, architecte et paysagiste, est le premier intervenant de la saison. Il nous donne des éléments de réponse sur la ville du futur.
Bonsoir tout le monde, je suis aujourd'hui avec Nicolas Gilsoul.
Bonsoir.
Donc Nicolas Gilsoul, vous êtes architecte, paysagiste, professeur, écrivain et aujourd'hui maître de conférence au champ libre. Donc vous avez plusieurs casquettes. S'il fallait garder une fonction pour vous décrire, ce serait laquelle ?
Alors dites donc, explorateur peut-être ?
Ça fait un peu à la Indiana Jones, mais...
Les villes sont des terrains d'aventure parfois plus incroyables que la jungle.
Nous avons vu ça dans votre conférence, ça nous a fait en tout cas voyager. Alors vous êtes l'auteur, le co-auteur du livre « Désir de ville » avec Eric Orsena, publié en mars 2018. L'écriture de ce livre vous a muté en véritable explorateur, globetrotter. Vous avez parcouru et comparé près de 200 villes, avec pour objectif de donner votre définition d'une ville humaine, intelligente. Une bonne ville en somme. L'avez-vous trouvée ?
C'est une chimère. La bonne ville, c'est une chimère. C'est un mélange de probablement 100 ou 150 des villes qu'on a vues. Elle combine toutes les stratégies, depuis la ville éponge de Copenhague jusqu'à l'intelligence de la palmeraie de Barcelone, en passant par les rivages réinventés et hybrides de Seattle.
Vous avez cherché un peu cette chimère, cette utopie en visitant près de 200 villes, mais comment avez-vous sélectionné ces villes ?
Ah oui, ça c'est une bonne question, comment est-ce que j'ai sélectionné ? Mais on en a vu beaucoup plus que ça. Mais on en a retenu 200 qui étaient iconiques ou qui portaient vraiment des projets forts sur ces métamorphoses aujourd'hui de l'espace urbain. Et c'est aussi des questions d'opportunités, de voyages et de rencontres.
On sait qu'aujourd'hui la moitié des Français vivent en ville et que cette tendance ne veut faire que progresser. Pensez-vous que réinventer la ville est un enjeu particulièrement important pour répondre à cette tendance ?
Alors c'est plus qu'une tendance, c'est le mouvement, je veux dire, naturel des villes là aujourd'hui. On dit que 3 humains sur 4 seront bientôt habitants des villes. Ce qu'on oublie de dire, c'est que 1 sur 3 habite déjà dans des bidonvilles de ces urbains. Et donc c'est une question clé, c'est une question clé pour les jeunes qui viennent construire la ville de demain. C'est une question clé pour mes étudiants, mais pour vous aussi, et pour mes enfants, et pour les petits-enfants de mes enfants, etc. Puisqu'on est appelé à tous habiter dans ce nouveau milieu écologique qu'on comprend mal et qui est très très fragile.
Donc comme vous l'avez dit, c'est un enjeu de demain, un enjeu important, et vous pensez donc que les étudiants peuvent changer la donne. Vous pouvez donner des exemples de personnes qui, à leur échelle, une petite échelle, contribuent à réinventer la ville ?
Oui, je crois qu'il n'y a pas de petits projets. Alors c'est évident qu'on ne transforme pas Séoul uniquement en plantant des pieds d'arbres. Alors ça c'est sûr, mais il n'y a pas de petits projets, mais tous ces projets accumulés vont construire une grande fierté ou une grande identité, donc un grand mouvement qui permette de faire bouger les choses, notamment à Madrid, la métamorphose de la Grande Via, donc l'équivalent de notre périphérique à Paris, en promenade publique plantée. Ça c'est quand même assez incroyable. Et donc c'est le travail des associations en amont, et puis le travail du budget participatif qui petit à petit a changé la donne et est en train de transformer cette grande autoroute urbaine en autre chose.
D'accord, donc c'est intéressant, vous avez parlé de Séoul, ça me trouve ma transition directement parce que pas loin de la science-fiction que vous citez notamment plusieurs fois dans votre conférence, il y a des villes qui sont partiellement voire totalement automatisées comme Sangdo. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, l'humain est au cœur de la ville. La ville, il ne faut quand même pas oublier qu'au départ, c'est le creuset de la démocratie, hein, depuis la Grèce antique. Donc une ville sans humain, ça n'a pas beaucoup de sens. La surautomatisation, je ne sais pas comment on doit dire, en tout cas, les villes intelligentes ne seront intelligentes que si les technologies et la révolution numérique permettent de retisser du lien entre les humains. Au-delà de ça, c'est purement des réponses technologiques.
Un enjeu de la ville, c'est aussi l'environnement. Comment combiner respect de l'environnement et réponse aux besoins générés par une population toujours grandissante ?
Oui, il y a plein de stratégies. Une, par exemple, intéressante, c'est la ville éponge. Voilà, à Copenhague, des pluies torrentielles en 2001, des inondations partout, des millions de frais. Et donc, comment installer 44 km² de réservoirs dans un tissu urbain constitué de 88 km². C'est pas évident. Eh bien, ça veut dire réinventer tous les espaces publics. Et donc, les parcs, même les parcs historiques publics existants, sont devenus des grands réservoirs, des grands parcs éponges. Et on a réinventé le jeu en extérieur dans des pédiluves, on a réinventé le fait de pouvoir traverser des flaques en profitant quand il pleut. Et Dieu sait qu'il pleut à Copenhague, il y a 220 jours de pluie par an.
D'accord, donc un autre enjeu aussi de l'urbanisation, c'est le vivre mieux ensemble. Est-ce que cette conception de vivre mieux évolue selon les villes que vous avez visitées?
Là encore, vivre mieux, ça veut dire quoi? C'est d'abord des questions de santé. C'est vivre mieux parce qu'on respire, parce qu'on ne subit pas les inondations, parce qu'on ne subit pas la montée des eaux, parce que... Donc ça, c'est une question de santé, d'environnement. Le vivre mieux, c'est aussi d'être ensemble, et peut-être avant tout d'être ensemble, donc de tisser des liens, et donc de ne pas jouer sur l'insularité, sur les quartiers gated communities, où le renfermement sur soi devient intolérable, puisque d'un côté, on a les riches, et de l'autre côté, on a les pauvres, ou d'un côté, on a les seniors, et de l'autre côté, on a les jeunes, ou voilà, ça, c'est pas possible. Une ville, elle se constitue de mixité. C'est un enjeu fort de la ville. Et vivre mieux, c'est aussi d'être fier d'habiter quelque part. Et être fier d'habiter quelque part, c'est un projet commun porté par les habitants, par l'élu et par les industriels, ensemble pour une ville. Et je trouve qu'à San Francisco, par exemple, c'est un exemple extraordinaire, ils ont tablé sur le zéro waste, donc pas de déchets et pas de gaspillage. Et pour arriver à faire ça, ils ont mis en place tout un tas de choses, et ce tout un tas de choses fait qu'aujourd'hui, 4/5 des déchets ménagers sont transformés en terre fertile, en compost, ce qui est quand même assez hallucinant. Les grandes entreprises du PTP sont obligées de payer des charges ou de remplir des labels pour arriver à travailler à San Francisco, sinon elles ne sont pas... voilà, et évidemment des trucs environnementaux, des questions environnementales. Et c'est devenu tellement une marque de fabrique de San Francisco qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, quand le camion poubelle passe le matin, les gens sortent et applaudissent.
C'est un peu un bon exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un vivre ensemble et d'un travail ensemble pour réinventer la ville. Vous avez aussi visité Rennes, et selon vos connaissances, est-ce que Rennes est en somme une bonne ville et une ville où il fait bon vivre?
Alors ça, c'est à vous de me le dire, si s'il fait bon vivre ou pas à Rennes. Moi, je vais me balader là dans Rennes et puis je vous dirai après.
D'accord, bah parfait. Alors je vous souhaite une bonne balade dans Rennes. Avez-vous d'autres projets littéraires à venir pour intéresser éventuellement les étudiants en architecture et en paysagisme et en aménagement?
Alors je crois que oui, et j'espère que ça va les intéresser et que ça va vous intéresser, puis que ça va intéresser aussi le grand public. C'est deux projets de livres qui vont paraître chez Fayard en 2019 et en 2020 sur les questions de la faune et de la flore en ville, et sur ce qu'on appelle très curieusement le darwinisme urbain, c'est-à-dire comment est-ce que toutes ces espèces évoluent aujourd'hui, ont muté ou ont évolué dans la ville, et aussi casser toute une série de préjugés qu'on a, parce que parfois, en pensant faire bien, on fait pis que bien, et parce qu'on ne connaît pas suffisamment le vivant. Donc la question, c'est de répondre, en tout cas en éclairant quelques animaux et quelques plantes peu connues ou mal connues de la ville, et en montrant comment on peut faire alliance avec elles pour construire cette nouvelle ville de demain.
D'accord, donc c'est noté. En 2019 et en 2020, vos futurs projets vont sortir, et nous espérons que ça vous amènera à revenir à Rennes pour une prochaine conférence.
Avec grand plaisir.
Je vous remercie pour cette entrevue et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.